Vous écoutez France Culture.
Obama.
Je récapitule. Pour être fier d'être américain, il faut courir. Ensuite, aimer son drapeau et surtout, faire en sorte qu'il gagne. Barack Obama, yes we can.
Bonsoir, vous écoutez France Culture et il est minuit 10. Dans l'émission ce soir, Alexis Patov-Steff, vous vous intéressez à l'organisation des architectes alternatifs. Julien Beller en est un des membres. Nous découvrons donc ce soir, alors que nous connaissions votre amour des anti-marxistes, nous découvrons donc votre côté sentimental avec cette association d'architectes au grand cœur. De votre côté, Manou Farine, en fine experte de l'art, mais aussi en collectionneuse avertie, vous vous êtes certainement reconnue parmi les 114 portraits de collectionneurs rencontrés par Judith Benhamou Huet et rassemblés dans le livre « Collectionneurs du monde » paru chez Phébus la semaine dernière. Et puis rencontre avec l'un de ceux qui fait partie des 80% de Français qui votent Obama. Olivier Schmitt, dit Schmitto, fait sa propagande sur le net et c'est Schmitt Obama.
This is Radio France Culture.
C'est lui, c'est l'architecte, c'est la cible.
Et donc Jim, en quoi va consister notre mission?
Bah c'est ça, pour le choper, on lui pète la gueule à ce gros crevard. Je veux qu'il meure. On s'était imaginé une belle maison avec ma femme pour la retraite. Et regardez le boulot de cochon qu'il nous a fait.
Belle maison, Jim.
En théorie, mais cet enfoiré d'architecte, il a tout salopé. Il s'est foutu de ma gueule. Ça m'a coûté 10 briques. Je veux qu'il meure.
Vous n'avez pas le droit de vous servir de nous à des fins personnelles.
Oh, ta gueule.
The time is...
Minuit 10.
Bonsoir, Julien Beller.
Bonsoir.
Alors, Alexis, on découvre... votre côté sentimental, je le disais, car cette association est fort généreuse.
Je ne sais pas si c'est mon côté sentimental, mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup aux choses alternatives. Je n'ai jamais entendu parler de l'architecture alternative, donc je découvre avec stupéfaction qu'il existe une.
L'organisation des organisation architectes.
AOA, Alternative Organization of Architects, c'est ça en anglais. Donc,
on peut le dire en français aussi, c'est l'organisation des architectes alternatifs.
Julien Beller est l'un de membres. Donc cette organisation, d'après ce que je vois, regroupe des architectes, des urbanistes, des designers, et presque tous ont double identité. Vous êtes franco-américaine, mais il y a une franco-finlandaise, franco-béninois, franco-togolais, franco-anglaise. Pourquoi ?
Franco-camerounaise, tout à fait. Je crois que ce qui nous rassemble, c'est l'envie de partager nos cultures et l'intérêt pour l'autre. Donc, c'est peut-être pas un hasard si on est tous un petit peu des mélanges de différents coins du monde et qu'on se rassemble pour aller voir ces bouts du monde. Le franco-camerounais nous a invités chez lui 2 années. On est susceptible de nous trimballer aux 4 coins du monde pour aller voir chez chacun ce qu'on peut faire avec lui et avec les populations locales.
Donc vous travaillez depuis 3 ans, n'est-ce pas ?
Ça fait 3 ans effectivement que l'association existe. Et simplement pour reprendre ce qui a été dit au début... Je ne sais pas si on est les architectes du cœur. En tout cas, on s'intéresse à une autre manière de faire la ville. On se rend bien compte des dysfonctionnements de la méthode qui fait nos villes aujourd'hui en France, du nombre de délaissés, de la morosité de certaines parties. Et donc on cherche une manière alternative de travailler, d'impliquer les habitants.
Comment l'association est née ? Quel a été le premier acte qui vous a fait bondir et réagir ? En tant que jeune architecte, puisque vous êtes tous des jeunes architectes.
Je crois qu'on réagit tous aux situations qui se présentent à
vous
nous.
Vous étiez étudiants ensemble, peut-être, déjà ?
Non. Le président a une soixantaine d'années, il construit depuis 40 ans, il est bien en place à Paris. La deuxième personne avec qui
c'est le président ?
C'est Patrick Bouchain.
Ah oui, il est fort connu, il a construit beaucoup de choses.
Voilà, la deuxième personne c'est...
On peut rappeler d'ailleurs ce qu'il a construit. Il a construit des théâtres pour Bartabas.
Il a beaucoup travaillé dans la culture.
Il a été adjoint à Jacques Lang, au ministère de la Culture. Il aide aussi la ferme du Bonheur de Roger Després à Nanterre.
Il a beaucoup aménagé de friches.
Il aime l'architecture la plus économe.
Voilà. L'idée, c'est de faire avec ce qu'on a et le mieux possible. Donc, on se retrouve complètement avec Patrick sur ce point. Il a fait le lieu unique à Nantes, les abattoirs à Calais, dernièrement, où c'est du gros patrimoine industriel qui, par l'énergie de la maîtrise d'ouvrage, qui s'avérait être sur ses projets des hommes de culture, a pu réhabiliter avec les moyens qu'on a. Et avec beaucoup d'ambition, ces lieux qui sont jamais tout à fait finis, mais qui sont vivants. Donc on a monté cette association avec Patrick, donc qui est vieux, qui a beaucoup d'expérience.
Mais qui a l'air jeune. Hein.
Fiona Midos, qui est dans la génération intermédiaire, qui bosse à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est mariée à un Camerounais. Et donc c'est elle un jour qui m'a appelé et qui m'a dit « Mon mari a envie qu'on aille dans son village, allons-y pour faire quelque chose ». Du coup, moi qui connais bien Patrick Bouchain, je l'ai appelé, on a monté cette structure et on a lancé un petit peu la machine qui a fait qu'on a construit une salle de classe dans un village la première année. Et qui aboutit sur chaque projet à une publication, parce que l'idée c'est de construire la ville avec les habitants, en échangeant nos compétences. Nous, architectes occidentaux, eux, entre guillemets, architectes locaux, bâtisseurs, chacun avec ses savoir-faire, les femmes qui nous cherchent des cailloux, les enfants qui font de la peinture. On essaie vraiment d'engager une dynamique au niveau local pour faire que le moment de construire soit un moment de rassemblement.
L'idée, c'est de construire avec.
L'idée, c'est de construire avec et avant tout, c'est de se rendre compte que construire, c'est possible. Construire, c'est possible de façon économe, écologique, quand on fait avec ce qu'on a, avec les gens qui sont là.
Donc, vos premiers projets étaient en 2005. Je vois qu'il y a la case de fête à Mayo de Neyel, Nord Cameroun. Diagnostic du village à Idol. Qu'est-ce que ça a été, diagnostic d'une village ?
Alors à Mayo de Neyel, on avait un vieil artiste illuminé qui a plein de projets pour son village, qui nous a demandé d'intervenir. Donc c'était un contexte assez facile. Parce que lui, c'est le petit frère du chef. Du coup, on a été accueillis. Tout le monde comprenait facilement. Il pouvait traduire nos principes occidentaux en adages locaux. Donc, c'était facile d'y travailler. On a tout de suite pu faire cette case des fêtes avec des matériaux locaux et un programme contemporain. Parce que c'est un village musulman. Du coup, le lieu festif n'existait pas. On a souhaité le dévoiler en tout cas dans ce village. Et le diagnostic à Idol, c'est un très beau village visité par des touristes conservateurs avec une architecture flambante qui est publiée, etc. Et donc on avait envie de voir la population, qui était laissée de côté, de quoi ils avaient besoin, et c'était essayer de sortir de cette image pour trouver un petit peu les problématiques et des programmes que les habitants auraient envie de mener avec nous.
Mais qu'est-ce que vous avez apporté pratiquement dans ces villages ? Quel était votre contrepartie ?
Le deuxième village. Alors, le diagnostic était censé aboutir à un projet l'année d'après. Il n'a pas abouti parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une hiérarchie trop importante dans le village. C'était difficile de travailler avec tous les habitants. On se rendait compte qu'il y avait des intermédiaires qui ramenaient tout à eux. Et du coup, on a décidé de ne pas faire finaliser le projet dans ce village. Par contre, le diagnostic qui a été... On part toujours avec des étudiants, une dizaine d'étudiants. Donc on leur a fourni un document, un relevé de certaines habitations, un relevé des plantations dans le village. Donc voilà, du relevé qui nourrit leur histoire, leur patrimoine, leur documentation. Et la deuxième année, on a construit des mobiliers publics avec, avec les enfants de ce deuxième village.
C'est-à-dire que c'est vous qui ont fait le design et eux qui ont construit?
On a fait tous ensemble, ouais, on a designé et construit ensemble. Bien souvent sur les projets, on a une ébauche en tête, on n'a pas un dessin très précis. Et c'est avec les gens qui détiennent le savoir sur place qu'on décide du dessin et de la forme que prendra l'ouvrage. Dans le sens où la forme n'est pas un objectif pour nous, c'est plutôt le programme.
Alors, Julien Belair, vous travaillez aussi à Saint-Denis. Oui. Et vous avez notamment fait une manifestation qui consiste en la distribution de beignets. En quoi c'est un geste architectural?
Alors, on appelle ce projet beignet public. On travaille sur cette thématique parce que la ville et ses espaces...
C'est pour parler de la diversité, voilà. Des projets de l'organisation des architectes alternatifs.
Effectivement, la ville et ses espaces de rencontres sont appropriés de manière informelle par des vendeurs à la sauvette. Donc on avait envie un petit peu de jouer avec cette tradition qui est évacuée dans nos villes, dans nos villes contemporaines, qui est de plus en plus évacuée aussi dans les villes entre guillemets du sud.
Et on a envie Quelle tradition de manger des beignets?
De manger des beignets, c'est un peu un prétexte et c'est ce qui nous permet de raconter l'histoire, mais de vendre ce qu'on peut vendre au coin de rue, que la mère qui ne travaille pas forcément, elle puisse vendre des beignets le matin, qu'il y ait un contact qui se fasse dans la rue parce qu'il y a une mama qui ouvre son sac et qui distribue les beignets qu'elle a fait le soir avant. Donc c'est un petit peu ce commerce, ce micro-commerce informel.
Réanimer la ville, en fait.
Réanimer la ville, occuper l'espace public.
Ça veut dire être architecte, c'est pas uniquement construire des bâtiments, mais c'est avoir un rôle dans la cité, sur le trottoir, en fait.
Bah, nous, on considère que...
Vous allez remettre du monde sur le trottoir, il y a la vente des beignets, des kiosques...
Bah effectivement, pour nous, être architecte, c'est construire la ville. Construire, c'est activer, c'est vivre, plus que simplement monter des murs en béton. Donc, dans beaucoup de projets, la programmation, l'activation des lieux est importante pour nous.
Mais là, c'est temporaire.
Elle peut même se substituer à une construction. C'est-à-dire que, voilà, on a fait une intervention dans le cadre des Nuits Blanches à Saint-Denis, place de la Gare. On a ramené une caravane, on avait 4 mamans africaines, des mamans roms. On travaillait aussi sur des campements roms dans le 93. Oui. Donc, c'était aussi une occasion de réunir roms, les différentes cultures.
Dans les campements roms, c'est intéressant parce que vous avez été à un endroit fort désagréable, à Saint-Denis, un tronçon de route situé en marge de la zone d'activité de la plaine entre la voie ferrée du RERD, le pont de l'A86 et la route nationale 410, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Où il y a un campement Rome.
Il y a une place, c'est un endroit qu'on trouve désagréable, et comme on le trouve désagréable, il y a une place pour ceux qui cherchent de la place.
C'est vous qui allez de votre propre fait.
Là, on est allé, voilà, on a construit une maison cet été, de façon informelle aussi, il nous restait du matériel, et on a décidé d'utiliser ce matériel.
Et les Roms vous laissent arriver et construire une maison à côté d'eux?
Nous on arrive, on prend contact avec des associations qui travaillent avec eux, on se demande, on les rencontre, on leur demande ce qu'ils souhaitent et ensuite c'est toujours un travail comme ça, petit à petit. Bien souvent on passe par les enfants ou par les mamans, on fait des ateliers, on commence à faire différentes activités qui éventuellement nous permettent d'aboutir à une construction.
Mais dites-moi, il y a une chose qui m'étonne dans cet atelier, dans ce que vous avez créé, c'est qu'au final, donc on arrive dans ce campement, j'imagine, ou caravane un peu mis de traviole, chacun trouvant sa place, et au final, après votre diagnostic, vous créez une rue entre les caravanes.
Non, alors
c'est comme ça que je l'ai lu. Hein.
Non,
faut-il.
Non, ce qui se passe, c'est que ce bout de ville qui a peu de qualité, qui du coup est délaissé, il est occupé par ceux qui en ont besoin. Donc les Roms, qui sont pour beaucoup citoyens roumains. Donc qui sont sans papiers, qui sont vraiment dans des difficultés, c'est pas les gens du voyage, ils se construisent, ils s'auto-construisent, et donc c'est ça qui nous intéresse, donc, c'est que c'est des habitants de la ville qui se donnent les moyens d'habiter. Et qui, beaucoup plus que des caravanes, qui récupèrent des fenêtres, qui récupèrent des tôles, qui récupèrent à la déchetterie tout ce qu'ils peuvent et qui font des objets assez extraordinaires. Quand on prend le temps de les regarder, c'est des objets qui ont une histoire, c'est des objets qui sont complètement écologiques parce que c'est du réemploi sans grosse transformation, c'est de la récup, c'est pas du logement social, ils demandent rien à personne sauf de pouvoir exister. Et
c'est du Patrick Bouchain sans diplôme.
Voilà, c'est des habitants qui se prennent en main, du coup c'est ce qui nous intéresse. Et eux, ils n'ont pas le droit d'exister. Enfin, on connaît tous dans l'actualité toutes ces situations d'expulsion, etc. Et du coup, un des premiers gestes qu'on a fait, c'était avec les enfants de nommer la rue, c'est-à-dire de mettre un panneau de rue et de dire, ben voilà, c'est une rue comme toutes les autres, et de mettre des numéros sur les maisons, d'un côté père, de l'autre impair.
Pour qu'il n'y ait pas cette sensation d'habiter nulle part.
Voilà, pour exister. Alors, une action qu'on est en train de commencer à faire, c'est d'envoyer du courrier, on veut mettre la poste de mèche, et du coup, ces gens, ils existent, ils sont là, et pour les expulser...
ils auront une adresse. Ils auront une adresse maintenant.
Ils ont une adresse, du coup, ils sont visibles. Nous, on travaille beaucoup sur ça, sur rendre les choses visibles. Pareil, quand on se retrouve au fin fond du Cameroun, ce qui nous excite, c'est de rencontrer ces vieux qui meurent et qui ont des savoir-faire incroyables, et c'est de les valoriser, c'est de dire, ben voilà, parle-nous-en, raconte, montre aux jeunes qui sont là et qui veulent du parfum et de la tôle, montre-leur encore ce qu'ils savent faire.
Alexis,
Vous avez introduit dans votre dossier de presse un terme de micro-architecture et réintroduction de la pratique d'un outil incontournable dans la conception architecturale, la main. Ça veut dire que les gens travaillent uniquement avec leurs mains, sans outils.
Quand on est au fond du Cameroun, on a deux ou trois outils. C'est un travail assez extraordinaire de se dire qu'on peut quand même construire quelque chose de gros. Notamment la deuxième année où on a fait un équipement public de 150 mètres carrés en 3 semaines et à la main, avec le matériau qui est disponible sur place. Donc c'est un rapport aussi à la matière qui, moi, architecte, m'intéresse. C'est un rapport à la matière qui permet à l'habitant de s'investir. Parce que en Occident, dans la société industrialisée, pourquoi est-ce que chacun ne peut pas se construire la maison? Parce qu'il faut des outils spécifiques. Le plombier, il a une clé spéciale, etc. Or, quand on se retrouve dans des micro-architectures éventuellement traditionnelles ou traditionnelles détournées, on peut tout faire avec ce qu'on trouve et avec nos moyens à la main. Donc là, on a un projet à Nanterre. On travaille sur un centre social et on fait préfabriquer un élément du centre social au Cameroun et on le ramène en container à Nanterre. C'est une cité, un quartier difficile, et je vais faire un atelier avec les jeunes de la cité pour construire cette case à la main, pour retrouver le plaisir du geste, du construire, et sortir un petit peu de cet univers de plaquiste.
Mais ça doit coûter super cher.
Le travail manuel, il est cher, et en même temps, chez les Roms,
en Afrique,
il est pas cher.
La main d'œuvre, vous savez.
Ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais qui ont du temps, qui peuvent trouver du matériel et l'assembler, et du coup, la main, c'est moins cher.
Minuit 10.
Olivier Schmitt est blanc, français, blond même, mais il vote Obama, et plutôt 5 fois qu'une, grâce à Schmitt Obama, qui sont une série de petits films que vous avez réalisés. Schmitto, Olivier Schmitt.
Appelez-moi Olivier.
Olivier, voilà. Olivier, que vous avez réalisé, Olivier, et que vous diffusez sur le site www.schmitto.fr. Et l'on vous voit, vous, tout harnaché du drapeau américain, faire en fait office de propagande avec ce slogan « Yes, we can ». Et nous raconter finalement, et c'est ça qui nous intéresse ici, comment et pourquoi une certaine partie des artistes américains votent Obama, qui font partie des artistes qui vous intéressent le plus, à savoir des artistes de rap, de hip-hop, des graffeurs, etc. Alors avant de revenir à votre intérêt pour les États-Unis, j'aimerais savoir si vous aviez eu cet engouement lors des élections françaises.
Ah bah non, justement, je pense que la première chose intéressante à dire, c'est que j'ai jamais eu envie de voter, je n'ai jamais voté, et si j'avais la possibilité de voter pour Obama, je le ferais, je pense.
Alors pourquoi ?
Bah écoutez, de mon point de vue, justement passionné par le hip-hop, les street artistes, bah pour la première fois, on a envie d'être pro quelque chose et pas anti, parce qu'on a vu pas mal de mouvements comme ça aux États-Unis ces dernières années, anti-guerre en Irak, anti-Bush, et là ils sont pro quelque chose, bah pourquoi on va pas reprendre ce que nous ont raconté les médias depuis 6 mois. Donc il est noir avant tout, ça ouais. change quand même énormément.
En quoi vous êtes proche des noirs américains?
Ah bah en ma qualité peut-être de white nigger, comme je l'ai défini dans un
précédent livre,
si on peut en profiter,
voilà pour faire la pub paru l'an dernier chez Lazy Dog.
White nigger, c'est juste sentir faire partie peut-être d'une certaine marge, ou en tout cas une façon de vivre autre que la norme.
Donc aujourd'hui, ça nous fait... on n'est plus, quand on est français et blanc, on n'est plus punk, hein, à défaut d'être punk, on est white niggers aux États-Unis, c'est ça quand on va dans l'alternative ? Politique.
Je sais pas en plus si on peut le définir par rapport à aujourd'hui, parce que la notion de white nigger, c'est Bruce Benderson qui
l'a... Non mais je parle de vous, Lévi.
Bah,
j'essaie de comprendre pourquoi on voit vos vidéos.
Alors avant tout, depuis tout petit, j'ai envie d'être américain. Je suis passionné par les États-Unis parce que j'ai fait beaucoup de skateboard, parce que je me suis beaucoup intéressé à la musique hip-hop, aux musiques électroniques. Ce pays me fait rêver depuis toujours. Et depuis 8 ans, et même ça fait quelques temps, c'était de moins en moins cool de se sentir américain. Et grâce à Barack Obama, comme j'arrête pas de le répéter dans ses petits films, il va rendre son cool à l'Amérique. En tout cas, il va tenter de le rendre avec toutes les difficultés qui vont être les siennes. Il va rendre son cool à l'Amérique. Le cool américain, cette définition du cool que sont les États-Unis à travers la culture populaire depuis le début du 20, la moitié du 20e siècle.
Alors les gens que vous rencontrez sont comme vous. Alors vous rencontrez des gens ou vous recyclez des gens que vous avez rencontrés dans vos précédents voyages, c'est ça, et vous faites aussi des recherches sur le net et vous insérez dans votre propre film des recherches sur le net. Donc vous expliquez très bien que il y a plusieurs chanteurs de plusieurs communautés américaines, enfin minorités américaines, qui ont inventé des chansons. Alors dites-nous un petit peu sur la scène hip-hop, qui sont les meilleurs soutiens, et est-ce que ça vous étonne parce que vous connaissez est-ce qu'ils étaient politisés avant? Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment est-ce qu'ils le soutiennent, etc.
Alors les artistes black américains ont depuis toujours, je pense, été très politiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de Will.i.am, donc le producteur des Black Eyed Peas, que la plupart connaissent, qui a fait donc ce morceau officiel, hein, le Yes We Can, qui a été repris par le Parti démocrate, qui compte des millions de clips sur YouTube, qui est insupportable à l'écoute. Parce qu'en fait, ils ont repris le discours d'Obama et chacun en mode We Are The World, donc en mode chorale, comme ça, vient chanter un couplet. Alors, il y a beaucoup d'artistes du hip-hop américain, mais il y a aussi Scarlett Johansson, quoi. Il y a tous les soutiens people d'Obama qui chantent dans ce morceau. Insupportable. En revanche, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est les remixes, les bootlegs, donc qui ne sont pas des remixes officiels. Bien souvent, on ne demande pas la permission à l'artiste qui a fait l'original pour en refaire une nouvelle version. Alors là, c'est très intéressant. Par exemple, il y a un rappeur du sud des États-Unis. C'est difficile de parler en termes d'underground, en termes de rap aux États-Unis, parce que j'avais envie de dire underground, mais il vend des millions d'albums aux États-Unis. Il s'appelle Lil Wayne. Et il a par exemple un morceau qui s'appelle Lollipops, qui a été remixé en Barack-o-pops. Donc en fait, Barack Obama a déjà une tête d'icône. Pour moi, c'est un espèce de black smiley. C'est une vision pop comme ça. Et donc la Barack-o-pops, c'est un morceau où tout un tas de rappeurs ont des sucettes en forme de tête d'Obama et expliquent qu'ils sucent la tête d'Obama, qu'ils la croquent, que c'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant aussi, bah, c'est peut-être pour revenir à ce que j'ai tenté de recycler dans ces petits films, c'est un reportage que j'avais commencé il y a 2 ans à Chicago, dans le South Side de Chicago, donc qui est le plus gros ghetto noir aux États-Unis. Et là-bas, Barack Obama a été social worker, alors éducateur de rue.
Social, ouais.
Michelle, sa femme, a grandi là-bas. C'est une fille du ghetto du South Side. Et bah voilà, il y a 2 ans, moi, j'avais passé une semaine avec DJ Spin, qui est un jeune black de 25 ans, qui fait
que l'on voit faire de la musique et fumer des pétards.
Ouais, mais ça, c'est
dans sa cave. Non, mais je dis ce qu'il y a dans vos vidéos.
C'est vrai. Alors, si on veut préciser, c'est la seule vieille vidéo qui n'a pas été mise en avant sur Dailymotion, c'est celle où il fume des pétards.
Ah oui, voilà.
Même en termes de liberté sur le net, on peut aller jusqu'à un certain point. Bon, toujours est-il que DJ Spin donc, fait de la juke, c'est une musique électronique populaire dans les ghettos de Chicago. Lui a 25 ans et se sert de cette musique pour fédérer les plus jeunes autour de quelque chose de positif. Donc ça nous fait penser à la Zulu Nation de Bambata, Peace, Love, Unity and Having Fun. Mm. Et c'était la bonne occasion, justement, vu qu'on parle beaucoup de là où, d'où vient Michel et Barack a été éducateur.
Donc, on voit que vous êtes familiers, Michel et Barack. Hein. Bah. Ouais, allez, on les connaît bien maintenant.
Non, mais je pense qu'ils vont devenir très familiers. Et bien, toujours est-il que, donc, à travers la vie de DJ Spin, je pense que c'est très intéressant de montrer comment ça se passe effectivement. Parce que ce qu'on appelle la ghetto life aux États-Unis n'est pas faite que de gangs rouges ou bleus qui se tirent dessus au coin des rues. C'est juste des quartiers populaires où il n'y a pas beaucoup d'argent, beaucoup d'entraide, de débrouille, de démerde. Et là, c'est une vision positive de vivre dans un ghetto que j'avais envie de montrer, et c'était l'occasion de recycler ces images que je n'avais jamais montrées.
On voit aussi alors tout ce qui est streetwear, les baskets Obama, les t-shirts. Quel est celui qui vous étonne le plus? Qu'est-ce qu'ils ont?
Peut-être que l'un des...
Alors vous vous déguisez avec ces choses-là sur vos petits films.
En fait, au-delà
on pourra voir un peu la panoplie
au-delà d'un ego trip qu'on pourrait m'attribuer, c'est quand même relativement difficile de se mettre face à une caméra et à faire bonjour, je suis Olivier Schmitt, je vais vous parler du phénomène Obama. Donc autant dire je suis Schmitt Obama, je m'habille comme un bouffon avec des étoiles, des bandes et des casquettes américaines, et je vais essayer de vous faire rire pour faire passer le message. Et en matière de street artist, peut-être que l'un des plus intéressants, c'est Ron English, qui vient de Boston et qui a fait la fusion du portrait d'Abraham Lincoln et de celui de Barack Obama, donc ça s'appelle Abraham Obama. Donc on se retrouve avec un Obama barbu qui ressemble à Abraham Lincoln, pas mal. Et il a comme ça collé ses affiches géantes dans les rues de Boston et de pas mal de villes aux États-Unis, un peu à la façon de JR, un français dont on parle beaucoup en ce moment, qui de la même façon. À Londres, non
si, si, dis, voilà. Non, je sais pas, j'essaie de...
Non, mais c'est parce qu'on le... On
c'est
le...
qui C'est un, ça... autre truc qui... un autre phénomène du net JR.
Non, du net, non, pas spécialement. C'est juste un street artiste qui emploie également ce format géant d'affiches qu'il colle dans les rues comme ça.
Son effigie. Et qui a invité là à Londres pour la première fois par la Tate. Enfin bon, bref.
JR l'artiste, oui Manu.
Non, mais c'était juste, entre autres avec d'autres street artistes, il y a toute une série de street artistes qui vont intervenir à Londres.
Et pour la petite histoire, c'est l'un des logos officiels d'Obama, cette tête qu'on revoit reprise partout.
Entre mixage entre Lincoln et son visage.
Non, une autre. Donc là qui appartient à OB, un autre street artiste qui en janvier a créé ce visuel qui s'inspire d'ailleurs de la propagande soviétique dans le traitement graphique à l'image. Et il a fait ça d'une façon spontanée parce qu'il avait envie de soutenir Obama, a mis sur son site internet en accès libre une haute def de ce visuel qui a été repris par tout un tas de gens aux États-Unis qui ont collé les affiches dans les rues. Et 2 mois après, Obama a écrit à ce street artiste pour le supporter. Alors là, c'est une révolution parce qu'aux États-Unis, les street artists sont considérés comme les derniers des parias. C'est genre des anarchistes, des gangbangers. C'est pire qu'en France. Donc là, quand même, Obama lui dit oui, merci. Et en plus, en fait l'un des logos officiels du Parti démocrate.
Est-ce que vous pensez justement dans ce geste de Barack Obama qu'il y a la sensation d'une récupération, enfin la nécessité d'aller les chercher? Mais est-ce que c'est nouveau qui vous c'est disiez c'est pas nouveau qui soit politisé les artistes blacks?
Mais que les politiques s'en servent avec autant d'intelligence, c'est totalement nouveau et c'est très futé parce qu'Obama, c'est l'un des petits films que j'ai pas mis. Vous regardez le logo. Moi, ça me fait terriblement penser à Pepsi. Le logo d'Obama, le code couleur, même les formes, c'est Pepsi. Son slogan « Yes, we can », ça aurait pu être « Just do it » ou « You can, canon » ou « The choice of the next generation ». Donc, avec toutes les armes du marketing, de la communication visuelle, il a su fédérer les plus jeunes. Et de la même façon, la façon dont il a utilisé les MySpace ou les Facebook, sommes rencontrés.
Oui, et en effet, Olivier
de la même façon.
Nous nous sommes rencontrés sur Facebook, réseau social.
Mais là, c'est...
Oui, et vous expliquez d'ailleurs dans un des films que vous faites comment, mais on ne peut pas tout raconter, on peut dire donc www.schmitto.fr, comment Obama a très intelligemment utilisé le net pour sa campagne.
Apparemment, c'était, comme on dit là-bas, les kids qui incitaient leurs parents à aller voter pour Obama, et le slogan c'était un peu « Yo mama, vote for Obama ».
Et voilà.
Donc très fort, beaucoup d'intelligence.
Oui, mais c'était dans le flux de tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, vous avez dit, pour faire passer le message, je me demandais juste quel message.
Hope, change, progress, yes we can.
Et ben voilà, c'est le message, il est remonté, alors évidemment, on va voir si c'est votre candidat qui gagne. Pump up the volume, pump up the volume. Was it good enough for you? Was it good enough for you? Collectionneuse Manu Farine, vous êtes peut-être connue, c'est ce que je disais, dans un des 114 portraits de collectionneurs rencontrés par Judith Benhamou-Huette.
Non, j'ai peur que nous ne jouions pas dans la même cour.
C'est pas la même catégorie que votre collection?
Non.
Parce que ici, il y a des gens qui n'ont pas trop d'argent dans le livre.
Oui, plus ou moins. En tout cas, ceux dont vous parlez, ils sont 114. Hein, donc, vous êtes Judith Benhamou, vous êtes spécialiste du marché de l'art. Vous tenez notamment rubrique du genre dans Art Press. Vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet. Alors, juste un mot avant de parler de ces collectionneurs en question, de ces 114 collectionneurs. Un petit mot sur, question de contexte, hein, sur l'inflation des foires et sur le contexte actuel. Il y a eu Londres, il y a eu Paris, il y a eu Berlin le week-end dernier, il y a Turin qui commence cette semaine. Est-ce que le marché peut absorber toutes ces foires?
Jusque-là, il pouvait, puisqu'il y a une mode pour l'art contemporain, un désir de consommation dans ces grands supermarchés que sont les foires. Et donc, plutôt que faire le tour des galeries, on va dans un lieu précis et on achète. Donc, jusque-là, c'était bien. Maintenant, les gens... on peut prévoir qu'il y ait moins d'argent destiné à l'art et donc il y aura moins de foires.
La crise.
Voilà, ça s'appelle comme ça.
La fameuse crise financière.
Voilà.
Qui va toucher le monde de l'art. À quelle échéance selon vous?
On y est.
Ah, c'est déjà?
Oui. La semaine prochaine, il y a les ventes d'art contemporain à New York et qui devraient donner le premier diagnostic.
Et la FIAC, vous savez les résultats des ventes?
Il faut vous dire que vous
êtes vraiment la grande spécialiste du marché de l'art en France dans les chroniques, et donc, dans les rubriques d'Art Press.
et je travaille aussi pour les Échos et pour Le Point.
Ah bah alors vous voyez, encore plus grande que ce que je pensais.
Et donc, immense. Et donc, à la FIAC, on s'attendait plutôt à une catastrophe, puisque Paris n'est pas un énorme lieu de consommation d'art. Et en fait, ça a été pas mal du tout. Il y a eu même de grosses transactions. J'ai entendu des transactions jusqu'à 4 millions d'euros. Enfin, mais la moyenne, c'était jusqu'à... 15 000 euros, c'était facile. 100 000 euros, ça existait. et 4 millions même.
Donc l'art, ça peut être une valeur refuge en temps de crise.
L'art, mais peut-être pas l'art contemporain, parce que la majorité de l'art contemporain, c'est un art en devenir, sur lequel on n'a pas de certitude, sauf l'art contemporain qu'on dit classique, c'est-à-dire les bonnes années des artistes reconnus.
Alors là, il n'est pas que question d'art contemporain dans votre livre, mais il en est quand même très majoritairement question. Si on voulait s'en cantonner au cliché, c'est-à-dire l'idée du collectionneur pendant très longtemps, qui était plutôt homme, plutôt blanc, plutôt industriel ou financier, est-ce qu'il y a encore un type de collectionneur ? J'imagine que non, mais à quel moment ça a bougé tout ça ?
Si j'avais dû reprendre des stéréotypes et faire le tour du monde avec mes petits stéréotypes, je me serais vraiment ennuyée. Alors ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'est que chaque personne est différente. Et donc j'ai pas trouvé une ligne directrice. Évidemment, pour collectionner, il vaut mieux avoir de l'argent. Mais il y a par exemple une collection d'étiquettes de vaches Kiri mondiales. Et donc,
c'est un artiste.
J'ai mis comme une blague et comme une respiration. Mais ce que je veux dire, c'est que collectionner aujourd'hui, c'est possible pour beaucoup de gens. Et en effet, j'ai pris des gens qui avaient des gens qui allaient raconter des histoires pour que ce soit un livre intéressant, mais je ne les ai pas choisis en fonction du budget, même si je pense que la démarche de François Pinault, dont on sait qu'il a beaucoup d'argent, est une démarche intéressante, donc une histoire intéressante.
Pour en terminer avec les stéréotypes, le collectionneur est souvent secret, discret, de moins en moins. Mais je pense notamment à l'exposition qu'il y avait eu lors de l'inauguration de la Maison Rouge qui s'appelait Collectionneur derrière la porte, qui jouait aussi beaucoup sur qui jouait là-dessus, une très belle exposition. Est-ce qu'il y a eu des résistances malgré
tout? Oui, bien sûr, il y a tous ceux qui n'y sont pas. Imaginez, il n'y en a que 115. Ouais. Non, mais aujourd'hui...
Oui, il y en a d'ailleurs qui manquent substantiellement. Je pense à Arnaud notamment.
Non, mais Arnaud, d'abord, il a refusé parce qu'il a dit que... qu'il ne médiatisait pas encore sa démarche personnelle et qu'il attendait une autre manière de le faire. De toute façon, c'est un projet qui n'est jamais fini. Il en manque toujours dans tous les pays. Il y a simplement 20 pays représentés et pas le monde entier. Comme c'est ma seule petite personne qui a fait ce livre, c'est déjà colossal, je pense. Mais il y a une tendance à dévoiler sa collection aujourd'hui, particulièrement dans le domaine de l'art contemporain, c'est clair. C'est pour ça que j'ai plus de collectionneurs d'art contemporain, parce que par exemple dans les tableaux anciens c'est quasi impossible.
Ça ne veut pas dire qu'il y ait davantage de collectionneurs d'art contemporain, c'est juste qu'ils sont plus bavards.
Il y a une conjonction des deux. Je pense qu'il y a aujourd'hui l'intérêt pour l'art contemporain est extrêmement grand. C'est une mode. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de collectionner l'art contemporain pour être dans l'air du temps. Mmh. Et dans le même temps, les collectionneurs d'art contemporain sont moins discrets.
Ça s'exhibe comme une Ferrari ?
Ça peut, ou alors une femme avec d'énormes seins.
Alors le display du livre est assez simple, donc c'est à chaque fois c'est par ordre alphabétique, on a à chaque fois une photo du collectionneur, une œuvre par collection et puis un texte qui détaille un petit peu la pratique et l'histoire de chacune des collections des collectionneurs. Alors sur ce dispositif justement, pourquoi ne pas montrer les œuvres dans leur environnement, une œuvre en tout cas dans son environnement domestique, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne voit comment vivent les collectionneurs.
Parce que c'est un projet qui s'est construit de manière progressive et que, en fait, s'il y a 5 Chinois, 6 Russes, 15 Américains, 15 Français, etc., on ne pouvait pas envoyer un photographe dans chaque lieu. Donc, de manière pour faciliter le projet, mais pour donner une iconographie, on a quand même demandé aux collectionneurs de nous envoyer à chaque fois un portrait et une photo d'une œuvre choisie. Alors, elle peut être en effet en situation, mais elle peut ne pas l'être.
Donc, à aucun moment, c'est vous qui avez choisi, parce que je pense notamment, il y a évidemment 114 exemples à prendre, mais par exemple, Hubert Neumann, le collectionneur, la photo qui a été choisie est une œuvre de Xavier Veillant.
Oui, c'est lui qui
l'a justifiée.
Oui, mais si vous lisez le texte, vous verrez qu'il est extrêmement passionné par Xavier Veillant, et donc il a choisi cette... il a fait ce choix paradoxal, c'est-à-dire un Américain qui collectionne l'art moderne et l'art contemporain et qui choisit un artiste français. Et c'était bien.
Judith Benhamouet, je vais vous poser une question complètement, enfin pas hors sujet, mais est-ce que la religion que pratique le collectionneur peut avoir une influence sur la collection ? À savoir, est-ce que les catholiques collectionnent plus que les protestants, que les bouddhistes, que les shintoïstes ou que sais-je encore ?
En tout cas, c'est pas passé dans mon questionnaire.
Que les juifs.
C'est pas passé dans mes questions. Je n'y ai pas pensé, mais...
Vous aviez un questionnaire ?
Non, non, il y avait, je dis questionnaire au sens large. Mais non, non, je n'ai pas pensé à la religion. Mais il y a la plus grande collection d'art islamique en main privée dans le livre, par exemple. Donc, évidemment, il s'agit de musulmans, mais non, c'est vraiment hors de propos.
Même si ce sont toutes des histoires très singulières, donc vraiment, le livre est aussi avant tout une succession de petites histoires. Est-ce qu'il y a un moteur, une psychologie commune qui lierait ces collectionneurs, comme Vajman justement l'avait suggéré dans le cadre de l'exposition à la Maison Rouge? Comment vous voyez ça, vous, qui l'avez pratiqué depuis longtemps ?
Ce qui est intéressant, c'est, bon, évidemment, pour un certain nombre, c'est un désir d'accumulation, mais même ça, c'est remis en question, puisque pour d'autres, c'est un désir d'épurer, c'est-à-dire d'avoir le meilleur. Donc, chacun a sa manière de fonctionner, mais ce qui est souvent troublant, c'est plutôt des choses qui sont arrivées dès l'enfance et qui vont faire que le collectionneur va collectionner.
Par exemple ?
Un des souvenirs que j'ai trouvé le plus marquant, c'est un collectionneur qui est à la fin, puisque son nom commence par la lettre Z, Zoumerov, et qui est le recordman des dations en France. Les dations, c'est un don entre guillemets à l'État en échange de privilèges fiscaux, et il a fait don dans le domaine des manuscrits, dans le domaine des disques, dans le domaine des... dans un tas de domaines. Et quand il était petit, pendant la guerre, il est allé à la campagne avec son grand-père, et son grand-père était certainement atteint d'Alzheimer, et il était collectionneur de timbres. Et devant le petit garçon, il feuilletait son album et il lui a montré un timbre et il lui a dit: tu vois ce timbre là? Eh bien, c'est le timbre le plus cher du monde. Et il a pris le timbre et l'a déchiré. Et le petit garçon s'est dit, eh bien, quand je serai grand, non seulement je ferai des collections, mais je ferai en sorte qu'elles soient protégées.
Voilà. Ah oui, ça a été un vrai traumatisme.
Voilà,
je pensais, moi, collectionner, il y avait un lien avec le fait de pas perdre, de retenir.
Non, par exemple, Saatchi passe son temps à faire des collections et à les vendre, Charles Saatchi. Et ça, c'est une rencontre intéressante, parce que Saatchi, c'est un des collectionneurs professionnels du livre. On entend beaucoup parler de lui, mais finalement, on le rencontre jamais. Moi, je l'ai vraiment rencontré, je l'ai cuisiné, c'est un personnage vraiment fascinant. Et c'est en effet un collectionneur professionnel, parce qu'il a une jouissance à la découverte, il a une jouissance à la...
Qu'est-ce que vous appelez un collectionneur professionnel?
Aujourd'hui, avant, il était publicitaire. Aujourd'hui, son métier, c'est de collectionner. Il collectionne, il montre, il fait des livres.
Il vend, il est marchand.
Et puis, il vend. Non, il n'est pas marchand, puisque son objectif, sa jouissance, c'est de montrer. Et par la suite, lui, il explique très bien. Il dit, de toute façon, je ne peux pas tout garder, puisqu'il collectionne depuis de longues dates. Et donc, il avance dans le temps, il avance dans le désir de découverte et certainement de partage.
Il y en a d'autres, je pense par exemple aux Jean Solin, qui ne sont pas dans le livre, d'ailleurs, accessoirement, qui, eux, sont des gens qui vont défendre une collection, qui n'ont jamais vendu une seule pièce de leur collection.
Je les ai interviewés, j'aurais pu les mettre, et puis, en fait, il y a eu un problème, vous allez tout savoir. Il y a eu un problème d'email, et donc on n'a pas reçu leurs photos, on ne les a pas mis, mais il n'y a pas que les Jean Solin qui ne vendent pas, il y a des tas de gens dans le livre. Non, mais moi, ce que je déteste dans la vie en général, et dans la collection en particulier, c'est l'idée d'une définition de pureté. Le collectionneur pur, le vrai collectionneur. Et ce que je cherche à montrer dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de chemins pour être collectionneur. Mmh. Même il y a des collectionneurs spéculateurs qui ont fini par aimer l'art. Au début, ils s'y intéressaient pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire je vais acheter, je vais revendre, je vais faire du fric. Et puis avec le temps, ils sont attachés à certaines œuvres, et puis ils les ont aimées, et puis ils sont restés.
Mais vous, Judith Benhamou-Huette, à part collectionner les collectionneurs, est-ce que vous collectionnez vous-même ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous collectionnez ?
Je collectionne... Alors moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je collectionne des choses qui sont remarquables à mon œil et pas sur le marché. Je m'intéresse à la photo du 19e siècle anonyme.
Et pourquoi ? Comment vous avez commencé cette collection ?
Eh bien, je pense... Alors, faisons un peu de psychanalyse.
Votre grand-mère ?
Non, c'est pas ma grand-mère. Je pense que c'est simplement un désir de racine. et que mes parents sont originaires d'Afrique du Nord, du temps où l'Algérie était française, et que moi, je n'ai jamais connu ce pays-là. Et donc, contrairement à mes frères et sœurs et à mes parents, j'ai vécu en France et je ne connaissais pas ce territoire des origines. Et donc, j'étais fascinée depuis toute petite, très inconsciemment, par les photos qui représentaient le passé que je n'avais pas connu. Et quand j'ai eu un peu d'argent et comme j'ai fréquenté le marché de l'art très vite, je me suis acheté des photos qui représentaient un passé qui m'était inconnu, mais qui était en lien avec ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'art contemporain. J'aimais les photos qui représentaient une certaine abstraction. Donc j'achète des photos d'architecture anonyme. Voilà. Bon, Olivier Schmitt, vous collectionnez les baskets et les t-shirts, non, c'est ça ?
Non, les t-shirts, ouais, je suis fétichiste du t-shirt.
Ah, ça, c'est pas pareil, fétichiste et collectionneur.
Il y a une forme de fétichisme dans beaucoup de collections, je crois. Hein.
Ouais, oui, tout à fait. Quand même, il y a une différence.
Oui, mais ça peut se rejoindre.
Mais moi, en revanche, je peux pas envisager l'idée de me séparer de ma collection de t-shirts.
Et quand ils vieillissent ?
Bah, c'est le temps qui veut ça, mais je les garde. J'en porte parfois le col déchiré.
Parce qu'on n'a pas peur du vieillissement de l'objet qu'on collectionne, de toute manière.
Ah bah si.
Ah si, vous craignez.
Mais et peut-être pour revenir à Obama, ce qui va être très intéressant. Mais non, mais c'est
Il va vieillir. Il va vieillir aussi.
Non, mais justement, en rapport au t-shirt, c'est tout l'engouement qu'il y a eu donc, de la part de la rue pour Obama. Ouais. Si jamais il les déçoit, le retour va être assez violent, forcément. Et donc, le retour, je veux dire, ces street artistes et ces artistes hip-hop underground qui ont donné tant à Obama, les t-shirts dans 3 ou 6 mois...
risque d'être intéressant. Il va y avoir les contre-t-shirts...
J'imagine. Et les contre-morceaux. Et aussi, tous ces jeunes gens qui, via, comme on disait, les réseaux sociaux, MySpace, Facebook, Twitter, se sont passionnés pour cette élection... Je pense que là, ça va vraiment. C'est une nouvelle façon de faire de la politique qu'il vient d'inventer. Ça, c'est clair. Ça y est, c'est donné. Je ne sais pas ce que ça va donner après.
Il revient toujours à Obama. On en était dans les collections de t-shirts, de fétichistes.
C'est dans 24 heures quand même.
Ouais, je suis au courant quand même.
Voilà. Non,
mais il n'y a pas beaucoup d'influence sur le vote là, non ?
Comment ?
Non, nous, non.
Non, ah non, aucune.
Même si c'est dans 24 heures. Oui,
non, mais d'accord, mais ça nous intéresse.
Non, vous votez Obama aussi, c'est ça ? Vous êtes.
Non, moi je vote en France et je trouve que c'est très important de voter en France. Et pas de voter aux États-Unis quand on est français.
Ah non, mais je ne vote pas.
Oui. Ah oui, c'est ça, c'est complètement ridicule.
Non, mais en fait.
Vous êtes complètement ridicule, Olivier Schmitt.
Excusez-moi.
Il vote pas en France, il vote Obama.
Mais je ne vote pas Obama.
Julien Belair, vous collectionnez ou vous votez ?
Je vote Obama, comme on a précisé tout à l'heure, vu que j'ai la double nationalité.
Ah oui, en plus, vous votez vraiment ?
Oui, je vote Obama. Voilà.
Tu as déjà voté, j'imagine.
Ouais. Ma maman est allée là-bas exprès, elle a apporté mon bulletin... qui sera déposé, qui a été déposé. Non, je collectionne pas. Les choses passent par moi, mais j'ai encore des très vieux t-shirts.
Ça m'intéresse.
D'ailleurs, j'ai encore les clous. Hein.
Alors on a la description de t-shirt alors.
Towers, que c'est un t-shirt que j'ai récupéré
qui intéresse Olivier au plus haut point.
N'empêche que j'avais raison au début de l'émission parce qu'il est question de cœur dans votre t-shirt, vous, un architecte au grand cœur. Ça vous plaît pas, architecte au grand cœur, hein ? Ça diminue.
C'est pas le but, mais
ça diminue la.
Le but c'est change.
Le but c'est de faire autrement, effectivement.
Est-ce que l'amour ça a à voir avec la collection ? On aime sa collection ou est-ce qu'il y a un rapport amoureux ?
Oui, des fois on aime plus sa collection que sa femme.
Non.
Bah bien sûr. Par exemple, il y a un collectionneur. Non, ça je peux pas le dire, mais il y a un collectionneur.
Ah, vous l'avez pas écrit dans votre
livre.
Qui
oblige sa femme à vivre dans l'ombre pour que ses estampes ne soient pas abîmées. Il y a un autre collectionneur dont la femme est agressée par les tableaux et donc qui, lorsqu'elle part en voyage, fait un petit accrochage dans la maison. Et il est question de couple dans ce livre. Lisez-le. Ouais, des histoires sordides, finalement. Ses œuvres sont bien envahissantes.
L'obsession, ça tourne toujours au sordide.
Même, oui, Claude Berry se levait la nuit aussi, parfois, pour faire des petits accrochages perso de Dubuffet chez lui. Aussi.
Mais on peut être deux et se réunir autour d'une collection aussi.
Oui, il faut regarder sur le même chemin. Il y a la même lumière, disons. Il y a un couple de collectionneurs qui se sont mariés tard et qui ont décidé de faire une collection d'art vidéo comme si c'était un bébé. C'est leur bébé.
Merci à tous. Minuit 10 ce soir, Judith Benhamou-Huette, Olivier Schmitt, Julien Beller, Manou Farine, Alexis Patovsev, Sophie Beaubert, Thomas Beau, Aude Lavigne, Alexandre Dang. Il est bientôt 1h, vous écoutez France Culture.
On n'a pas remarqué que le logo d'Obama change. C'est le logo de.
Que la nuit vous apporte à tous calme et tranquillité.